Bonjour, ici François Nardou de Montcuq depuis les studios du Boulevard. Dans le cadre de l'émission Un brin d'histoire, une ramellette d'historio en bon occitan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qu'on peut résumer en quelques mots, pays et paysage, c'est-à-dire le problème de l'adéquation ou de l'inadéquation entre les mots, les noms et les choses. Alors, ce domaine du rapport entre un pays et ses ou son paysage fait partie de la problématique des géographes, des historiens du climat, des historiens des paysages. Vous avez des auteurs qui sont connus là-dedans, comme Emmanuel Leroy-Ladurie, Monsieur Pitt également avec deux T, Emilio Sereni avec sa fameuse Storia del paesaggio italiano. Vous avez également Philippe Desfontaines, c'est Philippe ou Pierre, je ne me rappelle plus très bien, Desfontaines, avec sa thèse sur la moyenne Garonne, les hommes et leurs travaux, qui traite abondamment du Quercy, notamment du Quercy blanc, et notamment du pays de Montcuq. Alors le problème tient à la fois aux mots et aux choses. Parce que le français paysage, qui est sur la base pays, n'a pas d'équivalent en latin, la langue d'où nous vient le terme pays, pagus, qui a donné pays en français d'oeil, pays en languedoc. Il n'y a pas d'équivalent. Les latins, pour désigner ce qu'on appelle nous un paysage, employaient des expressions contournées, des périphrases, très poétiques, mais il n'y a pas de mots. Et si on devait restituer une étymologie latine au français moderne paysage, il faudrait employer une espèce de construction néo-latine, tout à fait artificielle, du type pagusaticum, qui aurait pu donner, à partir de pagus, quelque chose comme un paysage. Paysage est donc une formation lettrée, savante, qui doit dater de la Renaissance, du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'est une formation moderne. En occitan, on n'a pas de mot non plus, on dira lu campestre, le campestre, c'est-à-dire la campagne. Les Grecs auraient dit quelque chose comme, à partir du terme hekhore, la campagne, ils auraient employé une espèce de neutre pluriel, tak horemata, les choses qui tournent autour du paysage, autour de la campagne. Il n'y a pas de mots. Les langues germaniques ont l'allemand Landschaft, l'anglais Landscape, qui est l'équivalent exact au point de vue de la forme. Alors en allemand, Landschaft, ça désigne plus exactement la campagne. En anglais, Landscape a plus le sens du français paysage que de l'allemand Landschaft, campagne. Donc si vous voulez, il y a un problème qui tient à ce que la vision qu'on a du territoire rural, au fond, et le nom qu'on lui donne dépend de la perception esthétique ou utilitaire que l'on en a. Quand on voit l'espace rural, le territoire rural comme purement utilitaire, base de production agroalimentaire, on va lui donner un nom qui sera plutôt celui qui se réfère au pays comme territoire rural, agraire et exploitable. Lorsqu'on a de la nature une vision esthétique, on lui donnera le nom de paysage. Alors ce terme me fait penser à ce que nous ont révélé, à nous qui sommes des modernes tardifs, ce que peuvent nous révéler de l'Antiquité les peintures de Pompéi et d'Herculanum, qui nous montrent des paysages rêvés, artificiels. On peut penser à ce que la peinture chinoise ou japonaise nous révèle de la perception des paysages naturels par l'homme. C'est la peinture chinoise qui nous invite à entrer dans le paysage créé par le peintre. La peinture devient le support d'une méditation mystique qui introduit, qui permet d'accéder à l'éveil, à l'illumination bouddhique, le nirvana, ou alors au Tao. Le monde européen médiéval, à travers les productions de l'art médiéval, de l'art roman, de l'art gothique primitif, l'art roman reprenant les canons de l'art de l'Antiquité tardive, constantinienne et théodosienne, nous restitue une vision du paysage très, comment dirais-je, très symbolique. C'est-à-dire que dans l'art roman, comme dans l'art de l'Antiquité tardive, un arbre, dans une sculpture, sur un sarcophage, figurait une forêt. On a donc un art, si vous voulez, figuratif et très symbolique, qui est celui des époques d'avant la révolution esthétique et intellectuelle des XVIe et XVIIe siècles. Avec le XVIe et le XVIIe siècle, l'art de la représentation du paysage va redevenir naturaliste, même si ce sont des paysages imaginaires et idéalisés, sublimés. Dans le monde musulman, qui interdit la représentation des êtres vivants, on a une autre histoire encore plus... On a eu, comment dirais-je, un fait intéressant. Je pense à la mosquée dite des Omeyyades, l'ancienne basilique Saint-Jean-Baptiste à Damas, ancien temple de Zeus héliopolitain, Baal Shamin, le seigneur du ciel, et Baal Shamsi, le seigneur du soleil. La mosquée des Omeyyades, qui était l'ancienne basilique Saint-Jean-Baptiste, et après la conquête arabo-musulmane, les premiers califes omeyyades, par accord avec l'empereur byzantin, l'empereur romain d'Orient, ont obtenu le concours d'artistes byzantins qui sont venus réaliser des mosaïques. Et ils ont fait ce que l'on disait de cette mosquée des Omeyyades, une volière et un jardin d'oiseaux et d'arbres et de fleurs. À cause de l'interdiction de représenter tout ce qui, dans le monde musulman, pourrait être objet de vénération, d'adoration. Dans le Moyen-Âge européen, je mets de côté les miniatures ottomanes et persanes, mais dans le Moyen-Âge européen, les chansons de gestes, les romans du cycle arthurien, du cycle de Charlemagne, nous montrent une sensibilité de nos ancêtres au paysage, mais au paysage sauvage. Les forêts, les monts, qui sont des déserts humains, les terres gastes, et comme dira la chanson de Roland à propos du passage par Roncevaux, haut sont les monts et les vallées profondes. Il faut savoir que la première version que l'on a de la chanson de Roland, c'est pas du tout du français d'oï, c'est de la Languedoc. La plus ancienne version de la chanson de Roland est un texte occitan. L'Occitanie ayant développé une civilisation littéraire plus précoce que la civilisation de la France du Nord. Alors, les troubadours occitans révèlent une vive sensibilité aux aspects de la nature, verte et printanière, ou froide et hivernale. Vertes et printanières, je cite comme ça, de hasard et au fil de ma mémoire, des vers tels que « Si cum far sol e pars la flusa iglentino, el russignulez el ram sundus cantare fragne volfe taplano, cum l'uriu de la fontano s'esclarzis el russignulez, etc. etc. » Lorsque le soleil se répand et que naît la fleur de l'églantine qui a passé sa nuit à la pluie et au gel, lorsque le clair ruisseau de la fontaine brille au soleil et que le rossignol chante sur sa branche, etc., etc. Ou alors, au contraire, la nature froide et gelée hivernale, c'est la fameuse chanson de la flor emberso, « Arres plan la flus emberso per trencans rangs et per tertres ». Vous voyez, c'est très difficile à prononcer. « Cal flus mas gele cung lapis ». Maintenant que resplendit la fleur inverse, par les versants déchirés en ravins aigus et par les rochers, quelle fleur, mais si ce n'est celle qui fleurit par gel et par stalagmite de gel, voilà ce que c'est, ou stalactite de gel. C'est une perception, on la retrouve par exemple dans un des rares poèmes qui nous reste du troubadour de Montcuq, Bernard Arnal, si vous voulez, la fameuse chanson sur les rosiers. Er uaro quand le rosier sun ses flus nigrano. Maintenant que les rosiers, ou c'était quand les rosiers, parce que c'est soit aro soit ero. Alors si c'est ero, c'était quand les rosiers, aro, maintenant que les rosiers sont sans fleurs ni graines. On est en pleine saison hivernale. Froide, noire, humide, gelée. Inversement, l'automne du Moyen-Âge, 14e et 15e siècle, avec les tapisseries telles que celle d'Adam à la licorne, les livres d'heures comme celui du duc de Berry, les livres de raison, celui du bourgeois de Paris, les enluminures et miniatures des chroniques peignent des paysages, mais qui sont très anthropisés, très humanisés, selon les saisons. Rappelez-vous les fameuses enluminures du livre d'heures du duc de Berry. On a également le compost des bergers de la fin du XVe siècle, qui nous révèle une vision des paysages en rapport avec le passage des saisons et l'observation du ciel, de la voûte nocturne. Les peintures flamandes du XVIe et du XVIIe, les peintres du XVIIe et du XVIIIe siècle, français, anglais, les peintres romantiques allemands, le 19e siècle impressionniste, ou alors également les peintres de la ruralité, pensez au labour en Nivernais, à l'Angelus de Millet. Tout cela nous révèle une ancienne vision des paysages et de la nature, qui nous amène à nous poser la question de ce qu'il en pouvait en être dans un pays comme le Quercy, comme l'ancien bassin aquitain, comme, je dirais, les campagnes de l'Occident de jadis. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, comment faisait-on pour désigner un paysage lorsque les langues n'avaient pas atteint le stade littéraire d'évolution du français classique et de la formation de mots que l'on a reconstruits sur des bases latines ou grecques et que l'on a inventé des créations littéraires telles que le mot paysage, qui est une fabrication des lettrés français des 16e et 17e siècles. Vous savez que pour nos ancêtres ou nos prédécesseurs du XVIIe siècle, des paysages qui de nos jours nous attirent, tels que les montagnes, les bords de mer, étaient des paysages horribles, c'est-à-dire qui faisaient horreur, qui faisaient peur, qui faisaient se hérisser les poils sur la peau. On considérait comme affreux des régions, des contrées laissées à l'état sauvage, forestières, montagneuses, maritimes, étaient considérées comme des sites répulsifs. À l'inverse de nos contemporains qui sont attirés par la nature la plus sauvage possible, nos ancêtres du XVIIe et du XVIIIe siècle n'appréciaient la nature que domestiquée, humanisée, aménagée par l'homme. Et ça nous amène au vocabulaire donc de ces institutions à travers une petite étude que je voulais vous faire maintenant. Et nous allons nous quitter malgré tout pour quelques minutes de musique pour passer au sujet suivant, le vocabulaire du paysage. Toujours avec François Nardou, dans la suite de l'émission Un brin d'histoire sur pays et paysages, je vais revenir un peu en arrière, parce que c'est très difficile de tout synthétiser, sur le terme pays, qui vient du latin pagus. Il faut se rendre compte que c'est très curieux. Ce terme pagus est à mettre en rapport avec un vieux terme latin assez étrange. Lorsque, dans le monde romain primitif, on voulait délimiter une parcelle, on ne plaçait pas des bornes aux angles, ce qu'on fera plus tard, mais on enfonçait un bâton, un pieu, un pal dans le sol, à coups de maillet, à coups de marteau. Cette activité, qui consistait donc à enfoncer une borne dans le sol à coups de marteau, avait donné naissance au verbe « pangere ». Pangere, c'est frapper à coups de marteau pour enfoncer une borne dans le sol, borne destinée à délimiter une parcelle. Pangere va donner pactus, le pacte, qui désigne aussi la borne. Alors, pangere va donc désigner ce qui limite une parcelle. Or, la parcelle de terre va prendre, par sens très dérivé, le terme de pagus. Pagus, aux origines, ça désigne le territoire agraire, labourable, exploitable, autour d'un bourg de la campagne romaine. Ça va désigner un district rural. Puis, ça va désigner la parcelle de terre, puis la borne qui délimite la parcelle de terre. Il faut savoir que dans le monde romain, deux parcelles appartenant à des propriétaires différents devaient être séparées, on va retrouver ça tout au long de l'histoire du droit romain, par ce qu'on appelle une limite, un limes, c'est-à-dire un chemin de délimitation, au pluriel c'est limites, qui devait être large de 2 pieds et demi, soit 75 cm actuels. C'est ce que vous retrouvez exactement respecté encore au Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, dans le vieux bourg de Montcuq, où toutes les maisons sont séparées entre elles par des petites venelles, des banelos, larges de 75 cm, 2 pieds et demi romains. C'est ce que le droit romain imposait aux propriétaires depuis les origines même de Rome, et que l'on retrouve dans les codes de Théodose, de Justinien et autres, et jusqu'à travers tout notre Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, un pays, dans le vocabulaire et le mental de nos ancêtres du Moyen-Âge, c'est ce qui est délimité. Un pays a forcément une limite. Seulement, dans le monde gaulois, où on connaissait déjà le même problème, on s'est aperçu d'une chose, C'est ce que nous disent Jean Lartigot, c'est ce que disent les auteurs sur la Gaule romaine. On va retrouver ça dans l'Antiquité tardive, aux époques visigothiques, mérovingiennes, carolingiennes. Il faut lire pour ça l'Aquitaine des Visigoths arabes de Michel Rouche. On s'est aperçu que dans nos pays d'entre la Loire et les Pyrénées, les pays d'anciennes tribus gauloises, le Quercy par exemple, le pays des Caturqui, entre l'actuel département du Lot et du Tarn-et-Garonne, étaient séparés des pays riverains voisins, Périgord, Agenais, Rouergue, Limousin, Albigeois, Toulousain, par des zones forestières laissées à l'état sauvage et qui étaient plus ou moins larges. Alors en temps de paix, elle se rétrécissait, en temps de guerre, elle s'élargissait. Comme la guerre était l'état habituel des relations entre les tribus gauloises, ça va faciliter la conquête romaine, il est évident qu'elles étaient plutôt larges qu'étroites. Et ces forêts frontières, on les retrouve encore de nos jours dans le paysage. Le pays a donné naissance au paysage. Au fond, le paysage aux origines, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la forêt, c'est la zone qui délimite un pays, qui fait transition avec le pays voisin. Il y a là derrière ça l'idée de limite, de frontière, qui va se retrouver dans nos paysages à travers la toponymie, la micro-toponymie, mais même à travers l'organisation encore actuelle du paysage. Alors, il y a un exemple simple. En pays de Montcuq, quand, descendant la vallée de la Barguelonne vers la Garonne, vous passez de l'ancien territoire de ce qu'on appelait l'honor castellan, c'est-à-dire le territoire qui dépendait du château, de la tour Donjon et du château de Montcuq. Le territoire comtal, le territoire des comtes de Toulouse, seigneur de Montcuq. Quand on passait de ce territoire à celui de Lozerte, qui appartenait aussi aux comtes de Toulouse. Vous avez là une zone, c'est à la hauteur de Sainte-Juliette-Boulogne, une zone de forêt. Ces forêts sont l'ancienne séparation entre les deux châtellenies. Et ces forêts, la forêt de Boulogne, par exemple, et de la Baratie, la Baratillo, le domaine des frères Barat, commerçants de Lozerte au Moyen-Âge, cette forêt est centrée sur une source, la source de Sainte-Rose, qui était censée guérir les maladies de peau. Alors qu'en fond de vallée de la Barguelonne, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez le moulin de la Masquette, de la petite sorcière, au débouché dans la Barguelonne du Tartuguier, qui est, vous le savez, le ruisseau des Tartugos, les tortues, les bêtes des enfers. Mais un peu en amont, en face de Sainte-Juliette, sur le territoire de la paroisse de Caminel, à peu près à la hauteur de l'ancienne église disparue Saint-Amans de Cabremorte, Saint-Amans et Cabremorte, de la chèvre morte, vous avez un lieu dit Girgil. Le Girgil, c'est la forme évoluée de ce qui est connu en Palestine, en hébreu, sous la forme Gilgal. Le Girgil, le Gilgal, c'est la même racine pré-indo-européenne, méditerranéenne, et qui désigne un cercle de pierres dressées, de menhirs, si l'on veut, de cantalos gaulois. Ce sont des pierres dressées en cercle, centrées sur un point central. Emmanuel Anati, dans ses recherches archéologiques dans le désert du Negev et au Sinaï, a retrouvé d'anciens lieux de culte qui reproduisaient exactement ce modèle. C'est le Gilgal que ont dressé les Hébreux après le passage du Jourdain et au centre duquel ils avaient dû placer l'Arche d'Alliance. Ces Gilgal, ces Girgil, ce sont des lieux sacrés qui marquent donc des hauts lieux, mais aussi qui sont des lieux de passage, des lieux donc de confins. Et ces lieux de passage et de confins vont dessiner donc un parcellaire général du pays de Quercy, divisé entre de multiples petites contrées, les corioi de l'époque gauloise puis gallo-romaine, et qui vont devenir les châtellenies médiévales. Châtellenies des comtes de Toulouse, des vicomtes de Gourdon, des évêques de Cahors, des vicomtes de Turenne-Martel, qui sont les descendants de la première dynastie des comtes de Quercy, exclus du pouvoir par l'ancêtre fondateur des comtes de Toulouse, le fameux Foucault-Alt, qui va accéder au pouvoir en Rouergue, Albigeois, Toulousain et Quercy vers 850. Il va exclure du pouvoir à Cahors les ancêtres des comtes de Turenne-Martel. Donc, vous avez là donc un pays qui, à travers les perceptions visuelles que l'on en a, se délimite, se manifeste par ces délimitations. Ça va donner naissance, comme toujours lorsqu'on limite, à un mythe d'autochtonie, d'enracinement. Le lieu des origines, ce sera le lieu, le pays délimité. Ce sera aussi le giron maternel, si l'on peut dire. On sera les fils de la terre-mère. Et la terre mère, ce sera la matria et non pas la patria, parce que mata en grec, ta matria, c'est ce qui vient des materes, les mères, les ancêtres féminines. Alors que ta patria, qui va donner le latin patria, puis patrie en français, d'où l'accent tonique sur le i, qui s'explique comme ça, c'est le système, l'ensemble systémique des traditions des ancêtres, les pateres. C'est au fond les coutumes. Et les coutumes, qu'est-ce que c'est? Définition que connaissent bien tous les ethnologues et anthropologues. Les coutumes, c'est la dictature des morts, tout simplement. Alors que le pays de la mère, on est toujours du pays de sa mère, de sa mater, c'est la matria, terme qui aurait pu exister mais qui n'a pas eu d'effectivité. Et ça évoque quoi? Cette perception du pays, de la terre maternelle, de la terre d'où on est né comme le pays de la mère, c'est très bien illustré dans tout le bassin aquitain par la règle de ce qu'on appelle la matrilocalité, le fait que les hommes quittent leur famille pour aller s'installer dans la famille de leur future épouse. Les hommes épousent des héritières. Ils viennent, comme on dit en français doc, faire gendre. L'occitan facendre. Ils ne viennent pas comme gendre. Enfin, si, évidemment, mais ils viennent engendrer des héritiers aux grands-parents maternels, aux parents de leur future épouse. Ils entrent donc comme pour engendrer des héritiers dans un oustal, qui est la maison famille, le casal, c'est aussi au Pays Basque, etche. L'etche du Pays Basque, c'est le casal, c'est l'oustal, c'est la maison famille des pays occitans. D'où des noms comme Etcheberry, etc., que l'on connaît bien, c'est-à-dire une nouvelle maison. En occitan, Casonubo, Casoneuve, si vous voulez. Casonubo, Casanove, Casoneuve, Casenave, etc., c'est toujours la même chose, c'est l'idée de maison de nouvelle maison. Mais nouvelle maison, c'est une nouvelle famille, parce qu'elle a été fondée par des cadets ou par un fils qui a obtenu une part d'héritage. En principe, dans le bassin aquitain, ce sont les femmes qui héritent, les filles aînées. À défaut de filles aînées, c'est le fils aîné. Quoique, il faut dire que d'après ce que j'ai pu lire dans tous les registres des notaires de Montcuq d'Ancien Régime, la succession de père propriétaire, en possession d'un bien au fils aîné était la règle générale. Mais un généalogiste que j'avais rencontré aux archives départementales m'avait dit qu'il avait souvent constaté dans ses recherches, c'était un généalogiste qui travaillait pour notaire, et il avait constaté souvent cette pratique jusqu'en plein XXe siècle de la succession de grand-mère à petite fille aînée. Et la petite fille aînée, quand elle récupérait, quand elle entrait en possession du matrimoine des biens de la famille de sa mère, reprenait non pas le nom de sa mère, mais le nom de sa grand-mère. C'est assez curieux. On retrouve donc là, si vous voulez, cette fameuse coutume successorale du bassin aquitain, bien connue dans les Pyrénées, la transmission des biens par les femmes de mère en fille, ce qui évoque le mythe grec de Déméter et de Perséphone. C'est le mythe pan-méditerranéen de la terre-mère, la vieille. C'est un mythe réactivé dans l'imaginaire collectif, communautaire, à Montcuq, par l'histoire fictive créée vers 1950, de la découverte par Fernand Vignol de la grotte de Roland. Dans l'imaginaire des Montcuquois, c'est Fernand Vignol qui avait véritablement mis au jour cette grotte de Roland qui était vécue par les Montcuquois comme étant le lieu de leurs origines, le lieu de où la terre-mère donnait naissance aux habitants du pays. Chose que l'on retrouve dans les sculptures de l'église Saint-Pierre-Olien de Saint-Donès. On est là donc, si vous voulez, dans un monde où les mots et les choses évoque des réalités que seule la recherche à travers les mythes et les légendes permet d'élucider. C'est ce que nous allons voir maintenant dans un petit chapitre sur l'histoire d'un pays à travers et par ses paysages. Quelques minutes de musique vous seront utiles et agréables. Toujours avec François Nardou de Montcuq à propos des pays et des paysages. Alors, l'histoire d'un pays à travers et par ses paysages amène à observer ce que nous avons sous les yeux. Ça se dit en bon latin ad spectare, qui va donner aspect, les aspects du paysage, les aspects de la nature. Alors, en Quercy blanc, comme dans tout le Quercy du reste, il y a quelque chose qui doit retenir votre attention, c'est que l'aspect actuel des paysages, qui sont marquées par une abondante et dense couverture arborée, surtout des hauts des versants, et quelque chose qui est récent. Ça date des années 1950-60, lorsque l'abandon de l'élevage des troupeaux de moutons et de chèvres s'est traduit par, et qui a accompagné du reste la déprise agraire, c'est-à-dire l'exode rural, s'est traduit par le retour de nos campagnes à un état sauvage. Et avec cette déprise agraire, cet abandon de l'élevage des moutons et de chèvres, l'arbre et la forêt sont revenus. L'Écosse et leurs versants, qui jusque-là étaient surpâturés, donc soumis à l'érosion des pluviales consécutives aux gros orages d'été, cette érosion a disparu. C'est, au fond, ce qui a sauvé le manteau de terre, ce qu'on appelle le sol, si vous voulez, le sol agraire, le sol cultivable de nos causses et de nos versants, c'est la déprise agraire qui a permis le retour de la couverture végétale, forestière, arborée, arbustive, herbacée. Et nous avons donc là tout un ensemble de paysages qui portaient des noms divers, qui s'est recréé. Alors la forêt claire de type méditerranéen, des versants et surtout des causses, avec son nom de Garustos, qui désigne la forêt de Garrix, c'est-à-dire de petits chênes, le chêne truffier, caractérise l'Écosse, ainsi que nos garrigues à genévriers, qu'on appelle des Matthews, d'où le nom au sud de Cahors, de la banlieue de Cahors, les Mathieux. Les Mathieux, ça n'a rien à voir avec le prénom, c'est Louis Matthews, l'endroit couvert de buissons, l'Aimatos en occitan, buissons d'épineux, de genévriers par exemple, ils aussi de buis. Les Grèzes, la Igrejos, qui sont des étendues de cailloutis sur sol calcaire marneux. Les Pélénos, francisés erronément en plaine. Les Pélénos, c'est des pelouses sèches, à herbes maigres et rases, des cosses du Quercy, qui ont donné naissance à une végétation. Alors là-dessus, c'est répandu, c'est implanté, mais c'est très ancien parce que ça remonte au moins à 3500 avant notre ère, lorsque entre l'Èbre et le Rhône s'installe le climat méditerranéen actuel. À ce moment-là, on a vu s'introduire jusque sur les côtes du Quercy la flore méditerranéenne classique et caractéristique de nos régions, celle de pistachiers térébenthes, de filires, de sédums, d'asperges sauvages, de sauges, de germandrés petits chênes et d'autres plantes de la sorte. Les paysages cossanels ont été réassauvagis de nos jours, mais ils furent très anthropisés. Il faut lire pour cela Arthur Young, vers 1780, Richepré dans les mêmes années. D'où, du fait de l'exploitation et de la surexploitation de ces causses, les artefacts qui marquent la domination de l'homme sur ces milieux, que sont les gariotes, les caselles, les murs en pierre sèche, les chemins bordés de murs en pierre sèche, tout cela prouve la prise en main du territoire et des causses par l'homme, et qui est une prise en main très ancienne, puisqu'elle remonte au moins au début de l'agriculture dans nos régions, vers 5500 avant notre ère. Une agriculture qui a été introduite par la Méditerranée. Et il semble bien que les premiers agriculteurs du Quercy aient été des Méditerranéens du Proche-Orient, qui ont amené avec eux la culture des céréales, des légumes secs, du blé, de l'orge, des fèves, des pois, l'élevage des chèvres et des moutons. Du reste, il y a une chose qui a toujours frappé les archéologues, c'est qu'en Quercy, les premiers signes d'agriculture, les sites de fouilles archéologiques, révèlent un mode de vie qui est absolument le même par les productions et par les animaux d'élevage que dans le sud de la Palestine, le Liban, le sud de la Syrie. Donc une agriculture venue du Proche-Orient méridional. Ce qui va amener à cette constatation que l'on peut faire lorsqu'on se promène à pied ou à vélo, une chose qui m'avait beaucoup frappé dans le pays de Cahors, le versant holténien, si on peut dire, c'est que les versants, comme dans le pays de Montcuq du reste, mais c'est moins net parce que nous sommes un pays où la molasse d'Aquitaine, les argiles recouvrent et tapissent le fond des vallées, les versants d'Écosse, en pays de Cahors, sont aménagés en tablier, en quelque sorte descendant du bas vers le haut, dans le sens de la pente. Les parcelles sont plus étroites en haut qu'en bas. Et les sommets sont marqués par la présence de cailloux imposants, qui sont pris pour des restes de constructions proto-historiques. Alors les hauts, on les appelle en bon occitan « lui calmes »,« lai calmos », d'où le nom de « Montcalm » par exemple. Ce sont des hauteurs, des sommets sans végétation. Cette surpâturation et cette surexploitation des versants d'Écosse va déterminer de fortes érosions. Par exemple, dans le vallon de Cambeyrac, vers Saint-Vincent-Rivedolt, nos ancêtres agriculteurs, constatant cette forte érosion par les eaux de pluie, vont avoir l'idée de canaliser, de capter les eaux de ruissellement par des rigoles qui vont déboucher dans des bassins aménagée en pierre, d'où partiront des rigoles d'irrigation, d'arrosage. Et j'ai constaté ça dans la fameuse vallée de l'Andorre, à Cameirac, qui est de nos jours complètement assauvagie et abandonnée, mais qui a été longtemps un val mis en valeur par des... Il y avait des espèces de canaux qui recueillaient les eaux de pluie qui descendaient les versants, exactement comme dans le monde méditerranéen. Vous savez que, par exemple, à Alger, les rues du vieil Alger suivent les rigoles de ruissellement des eaux de pluie. Eh bien, c'est pareil un peu dans la vallée de l'Andorre. On avait établi des rigoles dans ces chenaux de ruissellement, rigoles qui débouchaient dans des bassins en pierre, d'où partaient d'autres rigoles d'arrosage, des parcelles du fond de la vallée. Dans le pays de Montcuq, j'ai retrouvé la même chose à Lasbouygue, dans la Combe vers Pichot, en vallée de Séoune. Vous avez ainsi des canaux en pierre qui recueillent l'eau de pluie et la dirigent vers la Séoune pour éviter l'érosion des versants. Encore mieux, c'est à Rouillac que dans des actes notariés du XVIIe siècle, je m'aperçois que le fameux Cap Mas de la Muratillo, connu dès le XIIIe siècle, c'est un mas sur le versant explosé plein nord en face de Rouillac, au-delà du Tartuguier. Et ce mas, ce domaine agricole, sur les versants, se caractérisait par le fait qu'il y avait un procès au XVIIe siècle entre les riverains. Parce que les possesseurs, les détenteurs du mas, capter les eaux de ruissellement, celles d'une source, d'un ruisseau qui descendait vers le Tartuguier, pour irriguer en petits chenaux qui allaient en zigzag jusqu'au fond de la vallée, les prairies de versant, pour obtenir des foins, et une récolte de foin plus abondante. Alors ce qui m'a par ailleurs frappé en pays de Montcuq, à travers l'observation du paysage, mais également à travers tout ce que nous disent les registres des anciens notaires de Montcuq conservés aux archives départementales, c'est la pulvérisation du parcellaire. Alors ça, c'est très net à Prégnac, que j'ai pu très bien étudier au XVIIe siècle à travers l'acte d'aveu et dénombrement qui a été effectué dans la grande enquête de réformation du domaine royal de 1667. Alors à Prégnac, on voit très bien, et ce que me disaient du reste les propriétaires actuels, notamment une personne qui a hérité une très belle vieille maison quercinoise et le domaine agricole de ses grands-parents. Lorsque son grand-père a acheté la propriété, elle m'a dit qu'il a passé son temps à recomposer une propriété d'un seul bloc, car à Prégnac, comme au XVIIe siècle, le finage agricole était composé de micro-parcelles, en puzzles, en confettis, imbriquées les unes dans les autres, avec des petits sentiers de desserte, évidemment, et toutes petites parcelles en mouchoir de poche, qui étaient aux mains de propriétaires habitants, enfin de propriétaires, de possesseurs. On est dans le cadre du régime foncier féodal, féodo-seigneurial. Aux origines, Prégnac, c'est un grand domaine des comtes de Toulouse qu'ils avaient attribué en fief perpétuel à différentes familles. Et on s'aperçoit que, si vous voulez, là, vous aviez des petites... C'était tout petit, hein, quelques mètres carrés quelquefois. Et les propriétaires exploitants, les possesseurs exploitants, habitaient quelquefois à Saint-Pantaléon, à Esqueirac, jusqu'à 3 km de là. Ils passaient davantage de temps dans les chemins à venir bêcher ou sarcler leurs petites parcelles que le temps qu'ils mettaient à la cultiver. Je redois un peu la même chose à Couvignac, mais là c'est moins net. L'évolution est plus précoce à Prégnac. Prégnac, au XIIIe siècle, est un mas. Il n'y a qu'un seul oustal, une seule maison familiale qui exploite le site. Prégnac, au XIIIe siècle, porte le titre de mas. Au XVe, XVIe, il portera le titre de cap-mas, donc le rassemblement de plusieurs exploitations. Or, je pense qu'en fait, le notaire du XVIe siècle ne savait plus trop qu'est-ce qu'il fallait entendre par mas et cap-mas. Il devait employer l'un à la place de l'autre. À Couvignac, c'est la même chose. Vers 1500, ce n'est qu'un simple mas. Vers 1660, c'est un cap-mas. Mais enfin, là, je ne prendrai pas trop les mots au pied de la lettre. À travers des micro-toponymes, on retrouve quelquefois l'histoire du défrichage, de la mise en valeur du territoire. Par exemple, à Saint-Pantaléon, la haute vallée du ruisseau de Saint-Pantaléon, qui portait le nom de Rio dels Fraises, le ruisseau des Frênes. Cette haute vallée était marquée par des versants qui portaient le nom de Apendarios, las Apendarios, c'est-à-dire les nouvelles parcelles, défrichées. On avait donc là, si vous voulez, tout un paysage qui était l'œuvre de l'homme et qui ressort encore mieux dans un cas particulier. C'est à La Longagne, commune actuelle, enfin l'ancienne commune de Moulin-Bessous-Valprionde, ça dépend de la paroisse de Saint-Félix. À La Longagne, comme à Trébaïs, c'est un cas très particulier qu'avait pu observer Jean Lartigot pour Trébaïs et La Longagne. C'est la constitution du hameau en casal, de petits lots de terre avec oustal, maison principale, couderc, c'est-à-dire des cours, patus, également des cours, des dépendances, des jardins. Chaque ensemble était constitué en espèce d'îlot, clos d'un mur en pierre sèche, et entre ces îlots circulaient les chemins de service. On retrouve ça également à Trébaïs. Alors on a longtemps cru que c'était un héritage du monde celtique. Jean Lartigot a rétabli la vérité des choses, parce que ce type d'aménagement, enfin d'organisation des petits villages d'Écosse du Bac-Ercy, apparaît dans nos régions après 1450. Alors à moins que ce soit le produit de l'immigration dans nos régions de paysans venus s'y installer depuis les pays celtiques de Bretagne, voire même d'Irlande, on ne voit pas l'explication. Ce serait, semble-t-il, plutôt une tradition locale dont qui peut remonter au temps gaulois, mais bon, on n'en est pas sûr et certain. D'autant que tout le finage agricole est constitué en champs dépendants de chaque casal, mais délimité en grandes parcelles, ordonnées en dents de peigne, d'où, par exemple, à la Longagne, l'appellatif de vignos pencenados, les vignes bien peignées, c'est-à-dire les vignes bien rangées, bien organisées. Ce micro-parcellaire d'Ancien Régime résulte, selon les historiens médiévistes, de la division des masses et cap-masses médiévaux entre les co-héritiers et de cessions entre vifs. On est donc là, si vous voulez, dans un monde qui va être marqué jusque vers 1850 par une croissance démographique exponentielle. 1850, le recensement marque l'optimum démographique des campagnes, le maximum de la charge de population sur nos campagnes. Alors, c'est particulièrement net. À travers les rapports des inspecteurs des contributions indirectes publiés par les archives départementales, et notamment concernant Bagat, Lasbouygues, qui me sont des exemples qui me reviennent bien en tête, parce que vers 1850, le finage agricole de Bagat et de Lasbouygues est totalement cultivé, il n'y a pas une haie, pas un bois, on cultive tout à la main, car les deux seuls trains de labour sont ceux du château de Folmont. Et Bagat et Lasbouygues sont uniquement, notamment Lasbouygues, qui est un finage de Cosse, est totalement consacré à la production de blé et de légumes secs. Alors que les inspecteurs des contributions indirectes disaient que Lasbouygues était plutôt fait pour autre chose que pour cela. Mais il y a là, si vous voulez, une surcharge démographique, en même temps qu'une surexploitation du territoire rural qui marque la France, notamment au XIXe siècle. Alors les années 1750, 1850, 1950, les deux siècles, ces deux siècles constituent ce que les géographes et les historiens appellent l'âge d'or des campagnes françaises. C'est aussi l'âge de surpopulation et de surexploitation. Alors ça va se traduire par un aménagement très élaboré. Par exemple, sur l'Écosse au sud de Montcuq, les vignes seront cultivées en canses. C'est-à-dire que closes de murs de pierre sèche avec gariottes et caselles, qui sont le signe de la propriété du sol, après le code civil, après les lois révolutionnaires, le régime seigneurial a disparu. On bâtit des murs en pierre sèche et des caselles lorsqu'on est propriétaire du sol, puisque étant propriétaire du sol, on est propriétaire de tout ce qui est bâti par-dessus. Et les vignes vont être exploitées au maximum, le sol qui est disputé entre les différents producteurs, n'est-ce pas, vu les difficultés de produire plus que ce que les techniques connues permettent de produire. On va élaborer une culture qui est bien connue en Italie, qui nous vient du monde romain, qu'on appelle la cultura promiscua en italien, et en occitan, la culture en canses. Ce sont des vignes qui sont complantées d'arbres fruitiers, et entre les rangs de vignes, on cultive des légumes secs, des légumes tout court, des laitues, des carottes, des radis, et aussi des céréales. En contrebas de Roquejalousse, plein nord, les vergers de fruitiers et les vignes de manguettes étaient composés d'une espèce de finage agraire, qui était organisé selon les cultures et les productions de tel terradou. Alors le terradou, ça désigne un lieu-dit, mais aussi un type de sol. Il y avait donc, si vous voulez, apparaissait, ce que je retrouve à Prégnac, de grands blocs composés de multiples parcelles, de micro-parcelles, imbriquées les unes dans les autres, mais chaque bloc, chaque terradou, était affecté à une culture particulière. Alors à Prégnac, la vigne était sur les versants exposés plein sud, en amont du hameau de Prégnac. À Montcuq, bizarrement, à Manguette, les vignes étaient cultivées sur le versant plein nord de Manguette. Pourquoi cela ? Ben, c'est Jean-Luc Carrière de Cailleret qui m'a expliqué. C'est qu'en cultivant des vignes et des arbres fruitiers gélifs, tels que les abricots, thiers, sur des versants plein nord, ça retarde la végétation. Donc, si vous voulez, ça permet aux arbres d'échapper aux gelées tardives. Et ça permet une production fruitière intéressante. Il faut savoir qu'à Montcuq, si vous voulez avoir beaucoup d'abricots, il faut les cultiver sur un versant plein nord. Si vous les cultivez sur un versant plein sud, ils subiront les gelées tardives et vous n'aurez rien. Alors ça pose le problème sur ces versants d'Écosse aujourd'hui abandonnés et reboisés, ce qui illustre du reste le recueil de cartes postales de Élie Lolmed, la thèse des Fontaines. Jusque vers 1960, le Quercy avait un aspect de pays aride, sec, chaud, désolé, un vrai désert de roches et de cailloux. Avec le reboisement et le retour de la végétation, ça pose le problème de la survie de la végétation de type ou méditerranéen ou médio-atlantique tempéré, qui exigeait des conditions de milieu qui étaient oblitérées, qui étaient en quelque sorte empêchées, interdites par la surexploitation et la surpâturation d'Écosse. Comment des plantes qui exigent une ombre chaude et humide ont-elles pu survivre pendant des siècles dans un milieu qui leur était devenu totalement hostile? Je pense notamment au tamier commun, la source des fameux Respunsus, alors que l'asperge sauvage, qui aime beaucoup les milieux arides et chauds, a prospéré sur l'Écosse. Il y a plusieurs problèmes, d'abord sur celui de la survie de la végétation. Que pouvait-il en être lorsque le Quercy était marqué par des paysages subdésertiques? Que pouvait-il en être des traditions et coutumes, des usages au sujet de toutes ces récoltes sauvages? Respunsus, asperges sauvages, champignons, les campairols, les escargots, les cagarols, les herbes bénicidales, les plantes à liqueur. Alors tout cela évoque un mode de vie disparu du XIXe siècle et des paysages dont l'histoire se révèle à travers l'étude de leur couverture végétale. Alors, pour achever cette émission et essayer de tout résumer, disons qu'à travers les paysages, à travers la végétation, à travers l'aménagement des paysages par l'homme, on retrouve l'histoire d'un pays. Prenez le cas simple des buis et des genévriers, buices et cenibres en occitan, des pins sylvestres à la Longagne. Ce sont des témoins du climat ancien du paléolithique final et qui ont survécu au dernier âge glaciaire et qui ont pu réenvahir l'Écosse avec le réchauffement du climat vers 10 000 avant notre ère. Avec ce réchauffement, s'introduit dans nos régions toute la végétation de l'Atlantique tempérée, mais aussi avec vers 3500 celle du monde méditerranéen. Or, vers moins 5000 apparaissent les premiers agriculteurs, qui amènent avec eux les cultures, les techniques du Proche-Orient ancien, favorisées par l'irruption, par l'installation du climat méditerranéen entre l'Èbre et le Rhône vers 3500. On a donc un paysage qui devient de plus en plus celui que nous connaissons de nos jours, avec des différences malgré tout, parce que les premiers agriculteurs du néolithique ont beaucoup plus cultivé l'Écosse que les vallées. Avec les temps gaulois et gallo-romains, les vallées vont être mises en culture. Ce qui fait qu'à la fin de l'Empire romain, on peut dire que tout le Quercy blanc est mis en culture, alors que les légendes le veulent couvert de forêts impénétrables au moment de la fondation mythologique et légendaire de Montcuq, vers 250. On est donc dans un paysage qui, en quelque sorte, sert de témoin archéologique. Quand on fait l'étude de la végétation, de l'histoire de la végétation, on peut faire l'histoire archéologique du pays de Montcuq à travers les différentes phases d'installation de la végétation en fonction des phases du climat, des stades du climat. L'époque romaine, les grands siècles d'époque romaine, de moins 250 avant notre ère jusque vers 300-350, c'est un optimum climatique antique qui se traduit par des étés chauds, longs, des hivers doux, que l'on va retrouver en plein Moyen-Âge au temps des Comtes de Toulouse. Le temps des Comtes de Toulouse, c'est l'optimum climatique médiéval. Alors évidemment, ça va se traduire par l'implantation de l'homme, la création de lieux habités, et toute une micro-toponymie qui apparaît à ce moment-là. Et le temps des comtes de Toulouse, qu'est-ce que c'est pour nous, historiens du Moyen-Âge occitan? Ben, c'est le temps des amandiers en fleurs. C'est le temps de la révélation. C'est ce que nous chante le secanto che canto. Devant ma fenêtre, il y a un amandier, il fait des fleurs blanches comme du papier. C'est l'arbre de la révélation, c'est l'arbre de la lumière. Ce qui fait que, en conclusion, que peut-on dire? Ben, les milieux naturels, certes, ce sont des paysages, mais ce sont des milieux naturels façonnés par l'homme. Et on peut se poser la question, les hommes ne seraient-ils pas des acteurs, des éléments actifs, mais aussi et surtout des acteurs passifs, pourrait-on dire, du ou des paysages? Subiraient-ils la nature plus qu'ils ne peuvent la dominer? La terre serait-elle le produit d'un hasard fécond et fertile, heureux, exceptionnel, dans le désert du silence éternel des espaces infinis? C'est de Blaise Pascal. Voilà, alors à la prochaine fois, et comme on dit d'habitude, ben, tengas buscrane, se sem pas mai, que si agen pas men, etc., etc. L'essentiel étant de parler occitan. Merci et portez-vous bien. Allez, au revoir.
Canto per la mia. seul.